Et que nous avons tous un pôle masculin et féminin, et que dans l'ordre normal des choses, c'est le pôle masculin qui est prédominant chez l'homme, heureusement. Hélas, il y a une quantité de drames qui font partie de cette désharmonie de notre temps à cause du péché. Mais il y a un domaine, en tout cas, où notre pôle féminin doit s'extérioriser, c'est celui-ci. Et il est vrai que la femme, par nature, est beaucoup plus entière dans ce qu'elle fait. Elle est d'un bloc. C'est tout son être, n'est-ce pas, qui se donne à ce qu'elle fait. Ce qui crée parfois une incompréhension avec l'homme qui, lui, est beaucoup plus cloisonné que la femme et travaille de manière compartimentée dans son action. Être tout entier dans ce qu'on fait. Alors là aussi, je me fais un plaisir de vous lire encore quelques extraits de ce livre de Certillange ou Certillange, ici, page 95. Fuyez par-dessus tout le demi-travail. N'imitez pas ceux qui restent longtemps à leur bureau avec une attention lâche. Mieux vaut rétrécir le temps et le traiter en profondeur, en accroître la valeur qui seule compte. Faites quelque chose ou bien ne faites rien. Ce que vous décidez de faire, faites-le ardemment, à plein collier, et que l'ensemble de votre activité soit une série de reprises fortes. Le demi-travail, qui est un demi-repos, ne favorise ni le repos, ni le travail. Remarquez comme c'est enlevé. Ça fait du bien et c'est tellement réel. Je vais vous citer donc plusieurs extraits, après quoi nous verrons concrètement comment faire dans notre vie de tous les jours. J'ai ici, toujours dans le même livre, mais page 214, sur la paresse. Les ruses de la paresse sont infinies comme celles des enfants. J'ai dû faire de mauvaises expériences. En cherchant un mot qui ne vient pas, on se mettra à griffonner dans sa marge. Et il faudra que le dessin s'achève. C'est vrai, hein? On le voit dans bien des manuscrits, on fait un petit Mickey ou je ne sais pas quoi. Hein. En ouvrant le dictionnaire, on sera attiré par une curiosité verbale, puis par une autre, et l'on restera là, pris dans un buisson. Vos yeux tombent sur un objet, vous allez le ranger, et un futile entraînement vous retient un quart d'heure. Voici quelqu'un qui passe, un ami est dans la pièce voisine, le téléphone tente vos lèvres, ou bien... C'est le journal qui arrive, votre œil s'y pose, et vous y êtes bientôt égaré. Une idée en amenant une autre, il se peut que le travail même vous éloigne du travail. Une rêverie s'autorisant d'une pensée et vous menant dans ses perspectives. Mais combien c'est réel ? Combien c'est réel ? Alors il faut quand même que nous fassions quelque chose, parce qu'il y a là un problème, et un problème essentiel. Alors avant de le voir, encore une citation... Page 97, toujours le même auteur, « Qui connaît le prix du temps en a toujours assez. Ne pouvant l'allonger, il le hausse, et tout d'abord ne le raccourcit pas. Le temps a une épaisseur, comme l'or. Mieux vaut la médaille forte, bien frappée et de ligne pure, que la feuille dilatée par l'art du batteur. » Batteur, battage, il fait le jeu de mots, le battage, n'est-ce pas, de ceux qui sont finalement dans la superficialité des choses. L'alliance des mots a ici sa signification. Beaucoup se paient d'apparence, de velléité brouillonne, bourdonne toujours et ne travaille jamais. Encore une dernière citation. C'est issu d'un voyage en Suisse et de la première page d'un journal, je crois que c'était la Feuille d'Avis de Lausanne, en première page. Et ça m'avait frappé parce que le nom de l'auteur est un Ker Daniel, ça sent la Bretagne à plein nez. Et ça s'intitule « Paresse ». Je ne vais pas vous lire tout, mais un extrait très intéressant. Les vrais paresseux sont actifs. S'ils ne font pas toujours semblant de travailler, méprisant l'hypocrisie, on ne les voit jamais inoccupés, car ils savent que l'oisiveté pure et simple conduit tout droit à l'ennui, et que l'ennui est à la fois le père, la mère, la mamie et le papy de toutes les mauvaises pensées. Ils ne passent pas non plus leur temps en prière, comme, bon, ils parlent de l'ayatollah, je m'arrête, hein. Je les définirai d'un mot à la mode, en disant qu'ils sont disponibles, c'est-à-dire accueillants, disposés à se laisser distraire, à trinquer, à faire un pas de conduite, et un brin de cour à la voisine. Bref, ressemblant à beaucoup d'hommes de ma connaissance. Je suis même tenté de croire que la paresse est un état naturel dont on ne devrait pas avoir honte. Ça, c'est sa conclusion. Donc ça, on est libre de la partager ou non. N'ayez pas peur, je ne pleure pas parce que je suis ému, mais parce que j'ai un petit problème de fatigue oculaire, simplement. Il fait très chaud. Je crois qu'il est important, donc, dans notre ministère, d'éviter de nous distraire dans le travail et de papillonner. Et là, je pense à nos stagiaires dans notre vie d'église. Et à un stagiaire qui est maintenant, qui a lui-même responsabilité dans une communauté. Oh, c'est un chic ami qui, après bien des aventures, il a fait le tour du monde en bateau dans la marine militaire, s'est donc retrouvé avec Christ dans une vocation solide, bon breton aussi, et est arrivé donc chez nous pour un stage d'une année. Nous avions trouvé pour lui un magnifique studio haut à 20 mètres de la plage, une magnifique plage de Paimpol, avec de ses couchers de soleil, de ses levées de lune, mais quelque chose d'absolument splendide. Et sa pièce, la fenêtre de la pièce dans laquelle il travaillait m'est donnée juste sur ce tableau. Et nous nous rencontrions tous les matins ensemble pour faire le point. On partageait les questions du travail, je lui donnais un certain nombre de choses à faire. Et j'étais toujours surpris par le temps incroyablement long qu'il lui fallait pour réaliser les objectifs que nous nous étions fixés. Et alors je lui ai posé à maintes reprises la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors il m'a dit, tu sais, c'est mon problème. Je m'installe au bureau, entre la vision de la mer, qui me rappelle tant de souvenirs, et les livres dans lesquels je vais papillonner, je n'arrive pas à avancer. Et nous avons dû donc travailler ensemble pour modifier cet état d'esprit, n'est-ce pas? Ça a été notre travail ensemble, qu'il puisse apprendre à travailler de manière à être plus efficace dans le ministère. C'est Spurgeon qui a fait remarquer que certaines personnes étaient paresseusement éveillées et activement endormies. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je le dis déjà au niveau des stagiaires. Si vous avez à vos côtés un stagiaire ou un jeune collaborateur qui démarre dans le service ou qui a peu d'expérience, il est important d'élaborer avec lui un programme précis et de lui demander un rapport horaire. Aussi rébarbatif que cela puisse paraître, en lui expliquant, c'est l'art de la communication entre nous, qu'il ne s'agit pas de ne pas vouloir lui faire confiance, le problème n'est pas là, mais de vouloir l'aider, n'est-ce pas? En soulignant ceci, c'est que de toute manière, nous avons aussi une fausse idée de la confiance. Souvent, il m'arrive de dire à des amis, mais qui me disent, mais vous ne me faites pas confiance. Mais si. Mais nous n'avons pas à faire confiance intégralement à quelqu'un. La Bible ne nous le dit jamais. La seule confiance intégrale que j'ai est en Christ et dans sa parole. Mais je n'ai pas une confiance intégrale en qui que ce soit. Et je ne demande personne d'avoir une confiance intégrale en moi. Je dois prendre des précautions d'amour vis-à-vis de mon prochain. Parce que je sais qu'il a sa fragilité comme j'ai la mienne. Ce qui fait qu'au niveau de la vie de l'église locale, même avec la plus grande confiance que je puisse avoir dans l'ancien qui est trésorier dans l'église locale, je veux deux anciens pour paraffer un cahier dans lequel on a porté une somme. Et que les comptes soient faits par deux anciens et non pas par le trésorier tout seul. Même avec la confiance que j'ai en lui. Parce que c'est un homme aussi fragile que moi. Et je veux être homme de bon sens, n'est-ce pas? Et je crois que parfois nous avons peur, n'est-ce pas, qu'on nous accuse de manquer de confiance, alors qu'il faut savoir dire aux collègues qui travaillent avec nous, à nos frères dans le service, mais je ne vous demande pas d'avoir une confiance totale en moi. Je ne vous le demande pas. Vous devez veiller sur moi. C'est un enseignement des Écritures. De veiller les uns sur les autres. Alors pas selon l'attitude de certains qui ne savent pas faire la nuance entre l'essentiel et le secondaire, etc. Nous avons des textes magnifiques, Philippiens 8, je crois, et d'autres, n'est-ce pas, pour nous montrer qu'on ne doit pas être là en train de traquer constamment l'autre. Mais nous devons avoir cette vigilance qui est un cadeau, un acte d'amour qui consiste à l'aider de manière à lui éviter de tomber. On doit mettre autour de lui un certain nombre de rambardes, de glissières de sécurité pour lui éviter certains drames parce que nous serions coupables avec lui. Alors au niveau d'un stagiaire, je recommande fortement d'arranger ceci avec le stagiaire qu'il vous présente son programme horaire. Quand ma femme qui a fait l'Institut biblique à Bruxelles est arrivée en Bretagne, mon prédécesseur aussi, alors qu'elle était assistante d'église, lui demandait un programme horaire. Et moi je bénis le Seigneur parce que c'était une bonne formation pour elle. Et ceci va être très intéressant parce que vous ne pouvez pas, si vous êtes l'aîné, le meneur, le Barnabas, ce qui était là, vous vous souvenez, nous avions fait cette étude sur Barnabas, formateur de Paul et formateur de Marc. Si vous êtes l'aîné et que vous demandez à vos stagiaires de vous présenter un programme horaire, de programmer dans le temps, n'est-ce pas, de chronométrer, non pas avec la rigueur de la seconde, n'est-ce pas, mais de chronométrer leurs activités pour vous les présenter, cela va vous obliger à examiner votre propre attitude. Et il m'arrive très fréquemment, encore actuellement, de temps en temps, en fin de journée, de dire, bon Maurice, combien d'heures tu as travaillé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? C'est important. C'est important de faire le point de temps en temps, de ne pas vivre dans le vague, parce que nous pouvons être repris par le Seigneur dans ce domaine. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. Peut-être que nous allons réaliser que nous avons travaillé 16 heures. Et que notre femme se plaint depuis des mois de notre excès de fatigue. Mais d'un autre côté, nous allons peut-être réaliser que nous avons fait 6 heures. Et que le reste du temps, nous avons papillonné, comme nous l'avons dit jusqu'à présent. Mais cela, c'est une chose vraiment que je vous recommande fortement. Parce que vous allez donner à vos stagiaires vraiment un sens du travail soigneux, bien fait, dans le temps, de la manière de négocier sa journée. Il ne s'agit pas d'être tranchant au couteau, n'est-ce pas, c'est vrai, mais de communiquer, d'aider à communiquer de bonnes habitudes, d'avoir un carnet de bord. C'est une bonne chose, n'est-ce pas, si c'est nécessaire pour nous discipliner, d'avoir un carnet de bord dans lequel nous puissions voir clairement ce que nous avons fait dans notre journée. J'ai fait ceci de 7h à 8h. J'ai fait ceci de 10h à 11h, etc. Et Dieu va nous interpeller, j'en suis certain, par ce moyen-là. Deuxièmement, grouper le plus souvent possible ce qui peut être fait dans le même effort. Je pense ici aussi à une amie, sœur en Christ, membre de notre communauté, qui a été pendant bien des années représentante et qui traînait ses lourdes valises un petit peu partout à travers la lande bretonne de notre région, sur un secteur assez étendu, et dont le problème était précisément celui de l'organisation du temps. Parce qu'elle répondait toujours aux assauts sentimentaux de son cœur face aux demandes des gens, alors elle allait avec son cœur. Ce qui lui faisait faire des kilomètres au lieu de grouper son travail. Or, pour un représentant et au prix où elle est censée, hein, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors, elle ne réussissait bien sûr jamais à boucler ses fins de mois, ça c'était évident. Elle était toujours sur les genoux, voyez. Et nous avons essayé de l'aider, n'est-ce pas, à organiser ses activités différemment, mais elle avait pris le pli, c'était trop tard. Mais ça aussi peut nous arriver, surtout si nous avons une tendance à être impulsifs. Vous voyez, des tempéraments de ce genre, qui subitement disent, j'en ai assez, je me lève, mets mon manteau, je saute dans la voiture, je vais faire une visite. Puis ils rentrent, et quand ils sont arrivés au bureau, ils disent, oh, c'est dommage, j'avais telle chose à voir au même endroit. Vous voyez? Alors, ne confondons pas inspiration de la part de Dieu, la révélation d'une situation pressante, et ça arrive aussi, ce besoin qu'on a d'aller dans une direction. Voyez, on a ce besoin parfois, et je ne voudrais pas que cela étouffe en nous, ce besoin que Dieu met parfois sur notre cœur pour aller là où il y a une personne qui a besoin de nous, par exemple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Je crois que, sur un plan général, nous devons apprendre à grouper notre travail par secteur, de manière à pouvoir faire le maximum dans un circuit, au même endroit, plutôt que de devoir revenir sans cesse et de nous disperser en temps, en argent, en énergie. Troisièmement, organiser nos activités quotidiennes en fonction de notre rythme personnel. Nous l'avons souligné dans nos remarques préalables. Tout à fait ce matin, en début d'étude. Nous avons tous des profils différents, nocturne, diurne, etc., n'est-ce pas? Et on peut même faire des subdivisions de classement parce que nous sommes des êtres très différents les uns des autres. Bon, je vous donne par exemple mon rythme d'activité, celui que j'ai découvert peu à peu et dans lequel je me sens à l'aise. Et il faut que nous apprenions à nous sentir à l'aise dans notre rythme d'activité, c'est important. Il faut que nous épousions un rythme d'activité qui corresponde à notre profil. Or, très souvent, il y a une divergence entre notre profil et notre rythme d'activité. Bon, pour moi-même, je vous l'ai dit, je suis homme du matin. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que je fais le travail le plus difficile le matin. Ce qui demande le plus de concentration, l'esprit frais, une disponibilité d'intelligence, etc., je le fais le matin. Je peux me donner vraiment à fond là-dessus. Ce qui demande moins de concentration intellectuelle, je le ferai l'après-midi. Quand j'étais en Bretagne, c'était les visites, et toutes sortes d'activités qui me faisaient faire du mouvement, déjà, par rapport à l'aspect statique du programme du matin. Et puis, entre ces diverses activités, dont certaines étaient des activités très pleines, eh bien, j'ai des moments intermédiaires. Et ces moments intermédiaires, je les occupe avec toutes sortes de menus travaux, c'est-à-dire triage de revues, lecture en diagonale, sélection d'illustrations, découpage, collage, classement, bricolage, n'est-ce pas? Et il y a donc cette reprise dont nous avons parlé tout à l'heure d'activité forte après une activité moins intense. Quand j'ai fait 2 heures de travail extrêmement concentré, je laisse tout tomber, ou bien je vais faire un tour, ou bien alors je prends mes fiches et je fais un travail d'un autre type. Et tout le travail devient cette série, n'est-ce pas, de reprises fortes qui sont toujours préparées par ces petites activités intermédiaires. Ce que je fais dans mon moment de lassitude, je sais que ça me servira, pas forcément aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 15 jours, dans un moment d'activité forte. Alors là, il faut que chacun trouve son rythme propre. Mais si le matin vous avez du mal à vous réveiller, il faut chercher aussi, dans la mesure du possible, une activité qui colle avec votre situation, n'est-ce pas? Je crois que ceci est très important, et là, on ne peut pas donner de structure extrêmement rigide, parce que nous sommes tous très différents les uns des autres. Mais je crois qu'il vaut la peine de s'arrêter une fois et de dire, bon, quel est mon type de personnalité, n'est-ce pas? Comment est-ce que je travaille le soir? Il y a des gens qui travaillent bien le soir à partir de 11h, c'est vrai. Et je ne veux pas le contester. Moi, 11h, par contre, si vraiment le Seigneur le veut, ben 5h, 4h du matin, là je travaillerai bien, n'est-ce pas? Alors, ça c'est aussi une chose très importante. Quatrième point, élaguer, là aussi, encore élaguer, de notre vie, les activités parasites. Paul disait, je fais une chose. Je ne sais pas ce que nous disons, nous. Je crois qu'un de nos problèmes, c'est que nous voulons courir trop de lièvres à la fois. Et il est vrai que les lièvres s'ajoutent les uns aux autres. Et ça court vite, oui. Et il est nécessaire de temps en temps de s'arrêter, de faire le point et de tailler l'arbre de nos activités. De poursuivre un certain nombre de buts restreints. J'ai été très frappé de constater que c'était là la norme des hommes qui, aussi bien sur le plan politique que sur le plan militaire, etc., ont eu un impact sur la société au fil de l'histoire. Lisez les biographies, elles sont très intéressantes à ce sujet. Ce sont des hommes qui ont veillé à poursuivre très peu de buts à la fois et qui ont constamment élagué, qui ont refusé de se disperser. Pourquoi? Parce que nous avons besoin dans notre vie de processus unificateurs. Et les processus unificateurs consistent précisément à poursuivre un certain nombre de buts restreints. Dès que vous commencez à vous subdiviser dans un faisceau de buts beaucoup plus variés, votre propre personnalité et votre psychisme en prennent un coup. Vous vivez en désunion intérieure et vous devenez immédiatement moins efficace. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé, même encore récemment, à la lecture d'un livre très intéressant qui est une interview réalisée auprès de plusieurs des ministres du gouvernement actuel sur les grands problèmes. La mort, Dieu, la prière, etc., l'argent, leur conception. C'est un livre très intéressant. Il y a la position de Mauroy, de Mitterrand, et l'interview auprès de Mitterrand est remarquable. Remarquable. De loin, à mon avis, la plus intéressante, et on est frappé par la discipline de cet homme. La manière dont il savait élaguer, et dont il sait sans doute encore élaguer, en refusant d'aller dans toutes sortes de mondanités, etc., même actuellement, pour préserver cet aspect unificateur dont nous sommes en train de parler. Alors là aussi, que ce week-end nous permette de nous arrêter et de nous poser des questions. Bon, qu'est-ce que je fais qui, franchement, peut être supprimé et qui s'est amalgamé, n'est-ce pas, à un tronc d'activité saine au départ. Ça va peut-être être même dans le domaine des lectures, dans le domaine de la radio, dans le domaine du bricolage et je ne sais pas quoi encore. Et dans un certain nombre d'activités sur le plan spirituel. Il y aura peut-être des lettres à écrire pour dire, écoutez, je me retire de tel comité, oui, exactement, dans mon ministère, si je voulais actuellement, mais je serais dans je ne sais pas combien de comités. Et ça a été pour moi un avertissement de Dieu extrêmement solennel dès l'entrée dans le ministère actuel. Maurice, si tu veux briser ton ministère, vas-y, multiplie les comités et tu feras tout à moitié. Et je vous assure que Dieu a travaillé à labourer dans mon cœur pour me dire, écoute, dis non. Et ça peut coûter, ça fait mal, il y a bien des choses qui nous intéressent. Et pourtant, il faut savoir élaguer. Je pense qu'acte 6, versets 1 à 4, va tout à fait dans ce sens lorsqu'il est question de cette dissension dans l'église de Jérusalem et de la réaction des 12. Acte 6, où il est dit, en ce jour-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Il y a quand même une définition de priorité qui est très claire dans ce texte et qui nous concerne les uns et les autres. Ça ne signifiait aucunement que pour les 12, le service des tables ait été un service secondaire, nécessitant de moins de spiritualité, non. Mais il fallait simplement élaguer. Il y avait le danger de commencer dans leur vie à eux, dans l'église naissante, à travailler tous azimuts. Ils l'ont refusé. Et personnellement, j'ai la joie de le dire, je me sens très à l'aise de le dire, je me sens à l'aise dans mon ministère, je suis heureux. J'ai l'impression de respirer à l'aise. Parce que, je prends le temps de respirer. Et je n'ai pas l'impression d'être constamment un homme écartelé dans une multitude de directions. Et ça me fait du bien. On est beaucoup plus à l'aise ainsi. Et on peut se donner à plein, n'est-ce pas, dans la joie. Je crois que c'est être toujours dans la joie, mais par où ça passe? Par toutes sortes de choses pratiques, n'est-ce pas? Celle-ci, je ne veux pas dire que je suis toujours dans la joie, c'est l'apprentissage perpétuel, mais c'est un autre thème. Cinquièmement, toujours dans ce point 3, bien organiser nos réunions, c'est aussi un gain de temps et d'efficacité, ça fait partie de cette cohérence dans l'action. Ayant coordonné les activités de notre pastorale bretonne et travaillant au niveau de diverses réunions ici et là, et de notre comité fédéral, j'ai toujours été frappé par ce problème qui est fréquent, et vous savez que c'est ce qui fait parfois que certains ne viennent pas au pastoral, ou s'ennuient dans les réunions d'anciens, ça intéresse nos réunions d'anciens aussi. C'est que nous avons tendance à vivre terriblement dans le flou, dans nos réunions, dans les réunions de travail. On discute énormément, les digressions sont extrêmement nombreuses, on s'évade très vite dans d'autres considérations. On évite trop régulièrement de prendre des décisions concrètes, pratiques, et de contrôler leur application. Et une quantité de pastorales en France fonctionne mal à cause de cela. Les serviteurs ne viennent pas parce qu'ils disent « j'ai l'impression d'y perdre mon temps ». Alors, je ne dis pas que le fait de ne pas y venir soit la solution. À chacun de s'examiner. Peut-être y a-t-il une autre forme de contribution pour aider les choses à changer. Mais toujours est-il que c'est vrai, c'est une de nos souffrances. Nous ne sommes pas assez réalistes dans notre travail de pastoral, de comité. Il est important de fixer des objectifs précis et concrets à l'avance. N'ayons pas peur d'utiliser l'ordre du jour et d'envoyer un ordre du jour. Est-ce que vous avez un ordre du jour envoyé à l'avance pour vos réunions de membres d'église, pour vos réunions d'associations culturelles? C'est important. Et de le prévoir à l'avance pour que le conseil d'anciens, aussi bien que la communauté locale, puisse vraiment y réfléchir. Et qui va être ensuite complété sur place avec les éléments nouveaux au début de la séance de travail. Établir un plan de travail bien concret sur la base de l'ordre du jour dès le début d'une séance, en se fixant un certain nombre d'objectifs précis et concrets à atteindre dans cette séance. Ceci est d'une importance capitale aussi. Il faut éviter les longues discussions dans le vide et les digressions à rallonge, et il faut savoir faire preuve là d'autorité. Ça, c'est comme dans la vie tout court. On se rend compte que dans le service de Dieu, le serviteur qui perd beaucoup de temps, c'est souvent celui qui, au téléphone, vous tient pendant un quart d'heure. Vous posez une question, et un quart d'heure plus tard, il ne vous a pas encore répondu. Et le tout, n'est-ce pas, c'est de toujours essayer de le ramener à la question que vous lui avez posée, pour avoir une réponse précise. Et on peut avoir cette déformation dans nos entretiens. Il est un certain nombre d'hommes que j'aime beaucoup, mais quand je vais les rencontrer, j'ai peur. Et je me méfie dès le départ, je me dis, bon, celui-là, il ne faut pas que j'accepte ces digressions. Sinon, je ferai en 2 heures ce que je peux faire avec lui en un quart d'heure. Et alors, je me fixe cet objectif dans l'entretien de le couper constamment pour toujours revenir à l'essentiel. Et en effet, on constate dans le profil de ses frères qu'ils ont énormément de problèmes de perte de temps. On prend une décision, on voit comment on va l'appliquer, c'est-à-dire qu'on doit se fournir les moyens de son application, et il faut donc que quelqu'un dans l'équipe de travail accepte de faire le travail. Et c'est pas tout. En dernier point, on veille au contrôle de l'application. Il faut le faire. Et c'est un peu mon ministère comme coordinateur au niveau de notre fédération de téléphoner et d'écrire aux membres de notre comité assez régulièrement pour voir où ils en sont et pour les relancer. Ce n'est pas un travail très agréable, mais c'est une des conditions. À nouveau, notre confiance, aussi grande soit-elle, est une confiance à la mesure de l'homme, à ma mesure à moi. Je me connais, n'est-ce pas? Donc je connais l'autre. Nous avons tous le même cœur. Et ceci pour pallier à notre tendance au flou et à la perte de temps. Nous arrivons à un point important qui est au cœur de notre séminaire, la priorité par excellence. Je l'ai volontairement mis, non pas au début, mais en point 4, il y en aura 6 au total, parce qu'elle est comme l'axe autour duquel tout le reste tourne. Je n'ai pas voulu la mettre en tête parce que je crois que nous réalisons tous que c'est souvent là, dans notre vie personnelle, que le bas blesse, le face-à-face avec Dieu et la formation biblique permanente. C'est vrai que l'expérience montre que c'est souvent cette priorité qui est escamotée. Nous avons un ennemi qui n'aime pas du tout cette priorité. Et comme nous l'avons déjà dit, il est vrai que tout nous apparaît tellement prioritaire. Quelqu'un dit, on peut être tellement affairé au service de Dieu qu'on en oublie de l'aimer. Samuel Chadwick disait, la préoccupation majeure du diable, c'est d'empêcher les saints de prier. Il ne craint rien des études bibliques sans prière, du travail sans prière, de la religion sans prière. Il se rit de notre peine et se moque de notre travail, mais il tremble lorsque nous prions. François Coillard, dans son journal intime, 1854, « Homme de prière, voilà mon ambition. Lorsque Dieu m'aura accordé l'immense don d'un esprit de prière, je saurai toujours avoir Dieu devant les yeux comme David. Je saurai employer chaque minute de mon temps pour sa gloire. Je saurai enfin me conduire mieux que je ne le fais. Je serai plus doux, plus amical dans mes rapports avec mes semblables. Je saurai réformer mon affreux caractère. Je saurai, car je saurai prier. » Et c'est Adolphe Monod qui, mourant le 3 février 1856, donc 2 années plus tard, disait ceci, « Ah, si je revenais à la vie, je voudrais, avec le secours de Dieu et en me défiant de moi-même, donner à la prière beaucoup plus de temps que je n'ai fait et me reposer sur elle beaucoup plus que sur le travail, qu'il est cependant de notre devoir de ne jamais négliger, mais qui n'a de force qu'appuyer et animer par la prière. » Et je recevais ces jours-ci une lettre d'un serviteur de Dieu me disant, « Je viens de me faire du bien et Dieu m'a dit très fortement que bien des échecs dont mon ministère était à mettre au passif d'un manque de piété personnelle, de relation personnelle dans la prière étroite avec Jésus-Christ. » J'étais très frappé récemment dans la lecture de Deutéronome 18.2 par cette simple expression concernant la tribu entière de Lévi, l'Éternel sera leur héritage. C'est notre héritage. Et c'est comme un défi que cette parole nous lance. Un défi en 2 dimensions. Tout d'abord, l'importance du face-à-face avec Dieu, de la contemplation, de l'adoration, du dialogue avec lui. L'importance de l'aimer en le lui disant et en l'écoutant. J'étais très frappé en lisant qu'il existait actuellement une montre réveil. Je vais essayer de prononcer comme je peux, Al Salat Azan. Je pense que ça se dit autrement, mais enfin, vous y connaissez peut-être mieux que moi en arabe. Made in Japan, qui appelle à la minute près les pratiquants de l'islam à leur prière aux heures prescrites par Allah. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient, ils sont appelés. Et elle existe même en 2 modèles et chante en entier les azans, c'est-à-dire les appels à la prière qui se font à heure fixe. Quand même quelque chose là, n'est-ce pas? Qui est une interpellation, même si nous pouvons contester l'esprit, nous pouvons en prendre quand même pour nous en ce qui concerne la forme et y ajouter l'essentiel. Ou à côté de ça, les Japonais sont en train, paraît-il, de faire sortir une montre bracelet dont le cadre sera remplacé par un écran de télévision. On obtiendra 5 ou 6 programmes au choix, à l'heure, à la demande, plus bien d'autres renseignements tels que la diffusion permanente des nouvelles ou du cours de la bourse. Alors j'imagine ce qui se passera dans nos réunions où certains discrètement suivront le match au lieu de suivre le serviteur en train de donner son message. Mais enfin, bref. Ça me rappelle une autre histoire de montre, ce qui m'est arrivé une fois en Bretagne où je me suis trouvé en train de donner un message. Il y avait au premier rang un jeune homme et en plein message, alors qu'il était juste devant moi, je ne sais pas pourquoi, mais il avait un gros réveil dans sa poche. Et son réveil s'est mis à sonner. Mais gros, hein. Et il était tellement affolé qu'il essayait de l'arrêter. Et plus il s'affolait, bien sûr, moins il trouvait le bouton. Et il a trouvé le moyen de laisser le réveil sonner d'un bout à l'autre. C'était très intéressant, je le dis en passant. Mais je crois que Bon, les amis, la partie est finie. Je crois que c'est important. Ce que nous voyons ici, il n'est pas normal de vivre sur un acquis. Je dirais que si quelqu'un d'entre nous a accepté de vivre sur un acquis du passé parce que le ministère est chargé, je dirais attention, danger. Et c'est grave. Il faut absolument que dans notre ministère, nous trouvions constamment ce rafraîchissement d'une relation personnelle intime avec Jésus. Bon, sinon nous travaillerons, le Seigneur, malgré tout, agira, mais ce ne sera pas ça. Et vous savez très bien ce que je veux dire. Et quelle est la solution pratique? Eh bien, je crois qu'il faut absolument trouver une portion de temps chaque jour suffisamment longue et l'entourer de fils de fer barbelés. Et tout faire pour la préserver. Et puis à partir de là, prendre aussi du temps pour l'étude en profondeur de la parole de Dieu. Il faut que nous vivions un recyclage permanent. C'est vrai qu'il y a ces possibilités, mais qui existent très peu dans notre pays, de recyclage, où on se met à l'écart pendant une semaine. Mais je crois que nous pouvons y pallier par notre propre recyclage. Je suis convaincu qu'il y a un recyclage qui est à la portée de chacun d'entre nous. Et nous allons voir tout à l'heure comment aborder ce recyclage permanent. En tout cas, en novembre 1970, Billy Graham, qui s'adressait à 600 pasteurs à Londres, disait que s'il avait à recommencer son ministère, il étudierait trois fois plus qu'il ne l'avait fait. J'ai trop prêché et j'ai trop peu étudié. Et le lendemain, il rapportait à John Stott la parole d'un autre homme de Dieu bien connu qui disait ceci: si je n'avais que 3 ans pour servir le Seigneur, j'en passerai 2 à étudier et à me former. Et je crois qu'il faut que nous ayons cette honnêteté de cœur, vraiment devant Dieu, cette intégrité, pour répondre justement à cette interpellation de Dieu. Comment est-ce que je vis spirituellement? Est-ce que je vis sur un acquis? Est-ce que je vis dans la sécheresse? Ou est-ce que réellement j'apporte du reçu de Dieu? Le livresque est une chose là aussi. Mais il faut que nous puissions recevoir quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu. Et cela signifie à nouveau, et voyez combien tous nos thèmes se rejoignent, la nécessité d'élaguer. Si nous voulons absolument préserver cette priorité, il faut que nous élaguions ici et là, dans nos vies. Et c'est là qu'il faut du courage. C'est là que ça peut nous mettre à genoux dans les larmes quand Dieu nous dit « Il faut que tu renonces à telle chose qui t'apparaît si légitime et que tu aimes tant. » Mais c'est notre ministère tout entier qui est en cause. Alors, suggestion pratique, méthode de mise sur fiche de la Bible, et vous verrez combien, je vous raconterai d'ailleurs dans quelles circonstances j'en suis arrivé à cette méthode, et combien cela fait du bien, avec toutes ces extensions d'ailleurs. Ensuite, n'acceptez que les rendez-vous urgents pendant l'heure d'étude. Je crois qu'il faut que nous ayons dans notre ministère le courage de dire à l'Église notre priorité. Il faut que nous le partagions. Et je crois que parfois nous avons des scrupules, nous avons peur que l'Église ne le comprenne pas, et c'est parce que nous ne communiquons pas assez avec elle. Il faut dire à l'Église ce que nous faisons de nos matinées. Il faut dire ce que nous faisons de notre temps de formation permanente. De manière à ce que l'Église réalise vraiment qu'elle va, elle, en tirer en tout premier lieu un merveilleux bénéfice. Et on peut même faire participer l'Église à notre travail de formation permanente. Quand nous étudierons la méthode de mise sur fiche de la Bible, nous verrons ensemble comment. Mais je suis persuadé que la communication est importante à ce niveau dans l'Église locale. Dites à l'Église locale que vous voulez être homme de Dieu, avoir un face-à-face avec votre Dieu. Et puis s'il y a des babines qui se retroussent et des nez qui froncent, non, je crois qu'il y a des domaines où c'est le bon plaisir de Dieu qui compte en premier. Absolument. Ce qui signifiera que si vous avez des rendez-vous qui vous sont fixés à l'issue du culte, vous vérifiez l'urgence de ces rendez-vous. Et vous maintenez, et quand on prend l'habitude de prendre des notes, n'est-ce pas? Quand on a un agenda, quand on a un programme de semaine, on a déjà préparé ce que je dis maintenant. Vous voyez combien tout se tient. Mais si tout est à faire, il est évident que nous ne sommes pas toujours dans la disposition qui nous permet de situer l'urgence de nos rendez-vous, de bloquer notre temps à part, etc. Mais il faut savoir dire à tel membre d'église, écoutez, si vraiment vous pouvez attendre jusqu'à l'après-midi, le matin, vous savez, entre telle heure à telle heure, j'ai vraiment mon rendez-vous personnel avec Dieu. Et je peux dire que ces 10 ou 12 années passées m'ont permis de vérifier la validité de ce que j'avance. Clairement, c'est du vécu. Et c'est du vécu simplement parce que j'ai été bouleversé, je dois dire, dans les années 65, dans mes entretiens avec deux ou trois hommes de Dieu en France, dans mon observation de la manière dont ils vivaient, et en constatant que l'impact de leur ministère en profondeur était dû à cette priorité-là dans leur vie. Ce qu'ils disaient restait. Et cela restait parce qu'on savait d'où ça venait. Ça sonnait profond. Ça sonnait vraiment comme résultat d'une relation permanente, intense avec le Seigneur à travers sa parole. Et ça signifie aussi qu'il va falloir faire un pacte avec sa compagne. C'est pas toujours facile, ça dépend de beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur, ma compagne a tellement bien compris cette dimension-là. Ça ne veut pas dire à nouveau qu'on passe à l'excès de maniaquerie du temps. Rappelez-vous le préalable que nous avons vu. Ça signifie qu'il y a vraiment un problème, on est là. Et notre compagne sait qu'elle peut compter sur nous dans une situation où réellement c'est difficile. Mais de son côté, elle veille aussi à nous laisser ce temps où nous sommes seuls à seuls avec Dieu. Si c'est nécessaire, mes amis, débrancher le téléphone. Il faut savoir faire ces choses. J'ai un ami qui est président d'une union d'églises évangéliques en France et qui a mis un répondeur automatique pour un certain moment de sa journée, malgré les critiques de ses collègues, mais parce qu'il en était arrivé à un point où il me disait, moi je suis à bout, je suis sec depuis des années, j'ai des responsabilités importantes, à la fois dans l'œuvre, responsabilité pastorale, responsabilité de présidence d'union d'église, il faut absolument que je trouve à nouveau du temps. Nous avons travaillé ensemble, nous avons beaucoup passé de temps ensemble, et il a décidé, avec courage, ça n'a pas été facile, de mettre le répondeur automatique, et de s'isoler vraiment pour rencontrer le Seigneur. Maintenant je le vois, il est heureux. Et me dit, mais c'est vrai, ça change ma vie, et maintenant j'avance à nouveau dans ma vie spirituelle personnelle. Dans quelles circonstances, et cela peut vous intéresser, je suis arrivé à pratiquer cette méthode? Eh bien, tout simplement après l'expérience dont j'ai parlé et que j'ai faite moi-même, à savoir la stagnation. J'avais pris l'habitude, depuis 1965 à peu près, d'étudier la Bible systématiquement avec un certain nombre de méthodes préalables dont on pourra parler dans un instant. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et puis je suis arrivé en 1976, j'étais dans ce ministère en Bretagne donc depuis 7 ans, et 76 a été une année très sombre, une année de stagnation, une année de sécheresse, pendant laquelle j'avais ce sentiment que je lisais la Bible, c'était plat. Je commençais à vivre sur un acquis. Et vraiment, ça m'a mis très très mal dans ma peau. La fin de l'année 76 est arrivée. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais les débuts d'année ou les fins d'année sont l'occasion idéale de faire le point, de faire le bilan et d'essayer dans un certain nombre de domaines de partir avec de nouveaux objectifs, avec une vision renouvelée. Et arrivé au début de l'année 77, dans les tout premiers jours, j'étais plus que jamais préoccupé par cet état de stagnation personnelle. Et je me disais, ça y est, j'entre dans une nouvelle année, ça va recommencer. Et ça me mettait très mal à l'aise, j'en étais profondément attristé. Et je priais donc pratiquement tous les jours en disant, mais Seigneur, montre-moi comment approcher ta parole d'une manière nouvelle. Je ne peux pas rester dans cette situation-là et être dans le ministère. Et puis le 15 janvier 77, alors que je priais pour cela dans le cadre de ce face-à-face du matin, en l'espace d'un instant, aussi clairement que cela, j'ai reçu dans ma prière la méthode, telle qu'elle. Et non seulement dans son application première, mais aussi dans ses prolongements, c'est-à-dire dans des dimensions que maintenant seulement, après 5 ans d'application, je développe. Et pour moi, ça a été un cadeau extraordinaire de Dieu, qui a renouvelé et qui continue maintenant à renouveler complètement ma vision des Écritures, mon approche personnelle de la Bible. Et je dois dire que nos stagiaires utilisent maintenant dans le ministère, mon successeur en Bretagne, qui s'est converti dans le cadre de notre ministère et qui sert donc dans l'Église maintenant, utilise aussi cette méthode. Ce stagiaire dont je parlais tout à l'heure utilise cette méthode. Et bon nombre de serviteurs maintenant, de plus en plus, travaillent sur cette base-là en l'adaptant. Et c'est peut-être l'avantage de cette méthode, qu'elle puisse s'adapter. Le problème très souvent, c'est qu'on a parfois des méthodes, mais qui sont des méthodes extrêmement sophistiquées, très peu souples, et qu'on abandonne parce qu'on y perd finalement plus de temps. Et j'ai entendu plusieurs serviteurs de Dieu, je me souviens d'une rencontre des serviteurs de France Mission une année en fin janvier, où j'avais apporté cette méthode et où l'actuel secrétaire général de France Mission avait dit « Moi, je suis heureux parce que je découvre une méthode qui s'adapte plus facilement que tout ce que j'ai cherché jusqu'à présent à ce que je désire dans mon étude personnelle des Écritures. » Et j'ai entendu cela ici et là, et c'est profondément bienfaisant. Alors, l'état actuel du fichier maintenant est à un peu plus de 5000 fiches qui représentent l'étude systématique de la Genèse, Exode 1 à 28, Habacuc, 1 Corinthiens, Philippiens, Colossiens, 1 Jean, Hébreu qui est toujours en cours. Depuis maintenant plus d'un an, je suis dans l'Épître aux Hébreux et c'est très passionnant. Alors il y a en plus de la mise sur fiche biblique proprement dite, des fiches anecdotiques, statistiques, citations, etc., etc. Nous allons voir le détail ensemble. Mais tout d'abord, condition à remplir pour une bonne pratique. Tout d'abord, la nécessité d'une bonne connaissance biblique globale de base. De temps à autre, certaines communautés m'invitent pour donner un séminaire sur le thème « Études personnelles de la Bible ». Parce que ça aussi, c'est un des problèmes. Dans les maisons évangéliques à Oulgat, à la Villa Emmanuel, où je vais actuellement en été souvent pour 15 jours dans une ou l'autre des maisons, ou dans les deux, ce qui était le cas l'été dernier, je suis frappé, parce que je donne alors cet enseignement aux vacanciers, je suis frappé de constater que pratiquement 9 vacanciers sur 10 qui viennent de toutes les églises évangéliques de notre pays me disent ceci: mon problème, c'est que je n'ai pas de méthode d'étude biblique personnelle et dans l'église, on ne nous enseigne pas comment étudier la Bible personnellement. On fait des études bibliques, on nous dit qu'il faut lire la Bible, on nous dit qu'il faut nous abonner aux lectures de la Bible, etc. Mais on ne nous dit pas comment étudier la Bible chez nous. Et ça, c'est vrai. Pour reconnaître qu'il y a certainement là un problème. Et le problème, d'où vient-il? Il vient certainement de ce que souvent le serviteur lui-même n'a pas de méthode personnelle d'étude de la Bible. C'est souvent ce fait, parce que quand on a une méthode et qu'on reçoit vraiment à travers l'utilisation de cette méthode, qu'est-ce qu'on fait? On la transmet. On la partage. Il y a là, de toute évidence, des lacunes des deux côtés. Et c'est emballant de vivre un week-end d'église avec ce travail et de voir les yeux qui s'écarquillent des membres de l'église quand on traite ces choses et leur joie de quitter le terrain de fausse culpabilité. Vous savez, c'est si facile de dire il faut vivre dans la sainteté, il faut évangéliser, il faut lire sa Bible. Et de placer donc les membres de la communauté sous le joug d'un légalisme impitoyable. Et impitoyable simplement parce qu'on leur dit qu'il faut faire, mais que l'impératif n'est pas accompagné du mode d'emploi. Alors on culpabilise les gens à outrance. Alors que si on dit à l'église, écoutez, il faut évangéliser, ensuite il faut donner une série sur le comment évangéliser. Et comment évangéliser pratiquement, en mettant entre les mains de l'église locale les moyens d'évangéliser et toutes les formules d'évangélisation pour éviter l'évangélisation stéréotypée. De la même manière dans d'autres domaines. Eh bien, en ce qui concerne l'étude de la Bible, il en est exactement de même. Pouvoir communiquer à la communauté dont on a la charge, avec d'autres, une vision d'une saine étude biblique personnelle avec des moyens, je crois que c'est un des objectifs primordiaux dans la vie de l'Église. Nous ne serons pas toujours là. L'Église peut connaître des temps extrêmement difficiles dans les temps à venir. Et vous savez qu'encore récemment, des Américains emprisonnés au Vietnam pendant la fameuse guerre se sont retrouvés en prison, donc, et se sont dit, nous allons essayer de réunir tous les versets que nous connaissons pour essayer en quelque sorte de reconstituer si possible tout ce qu'on peut de la Bible pour nous faire du bien. Ils se sont rendus compte très rapidement qu'ils étaient incapables de mettre sur papier plus d'une trentaine de versets de la Bible. Et ça a été une humiliation terrible pour ces hommes qui ont été libérés et qui sont rentrés, croyez-moi, dans leurs églises aux États-Unis avec un seul désir, celui de se mettre à mémoriser la Bible, à l'étudier en profondeur pour être armés. Or, nous sommes dans une situation où nous allons, j'en suis absolument convaincu, au-devant de temps difficiles, où ce que nous faisons maintenant ensemble aura des répercussions si vraiment c'est vécu par l'Église. Nous préparons les temps difficiles. Il faut que le disciple de Christ puisse étudier la Bible de manière personnelle et non seulement en vie communautaire. Nécessité d'une bonne connaissance biblique globale de base, ce qui signifie une lecture cursive, systématique de la Bible, aura été pratiquée pendant plusieurs années au préalable. D'autres méthodes d'approche auront été expérimentées, telles que coloriage, soulignage, encadrement, code alphabétique, symbole. J'espère que vous avez, dans votre enseignement d'église, quelque chose là-dessus. Et que chaque nouveau converti à Jésus-Christ est placé en face d'un choix de possibilités d'approche de la Bible. Vous avez par exemple une grille, je l'ai ici. Vous voyez, c'est une grille couleur, suivie d'une grille concernant la Trinité dans son action, Père, Fils, Saint-Esprit, suivie d'une colonne bleue, alphabet bleu majuscule, concernant des grands thèmes de la Bible, suivie ensuite en rouge de toutes sortes de symboles, de codes, repris d'ailleurs ici, également ensuite en minuscule vert d'autres thèmes, subdivisions, et enfin en noir un certain nombre d'autres thèmes négatifs dans les Écritures. C'est extraordinaire de travailler sa Bible avec quelque chose de ce type. C'est fantastique, ça vous aide à lire la Bible, ça vous accroche. Vous avez dans chaque mot un moyen d'accrochage parce que vous avez une grille de travail. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, nous l'avons dit, nous sommes dans un temps où on lit très vite. Et on passe sur un tas de choses dans notre lecture rapide. Et il nous faut en quelque sorte des freins comme pour ces avions qui arrivent sur les plateformes des porte-avions et qui sont freinés, n'est-ce pas, de manière artificielle. Nous avons besoin de freins pour nous saisir dans notre étude de la parole de Dieu de manière à ce que nous nous arrêtions sur le détail. Et il faut que nous puissions apprendre, nos membres d'Église, à avoir ces freins en leur donnant une grille. Alors on commence avec une petite grille. Je viens de faire ce travail avec une agente de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons passé un après-midi ensemble où elle a repris tout ça pour sa propre gouverne, n'est-ce pas, pour son propre travail. Et elle se lance dans la mise sur fiche aussi. Et elle me dit déjà, mais c'est fantastique ce que ça me fait du bien. Voyez. Alors, il faut que nous ayons déjà ça et que nous commencions par cela avec notre église locale. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce plan, toutes les grilles possibles qui existent pour la lecture personnelle des Écritures. Mais il faut en tout cas avoir eu pendant plusieurs années une approche systématique des Écritures pour avoir une vision globale. Vous verrez que c'est très important pour élaborer les fiches dont nous allons parler tout à l'heure. Il ne s'agit donc pas d'aller vers un nouveau converti à Jésus-Christ et de lui dire, bon, tu sais, on va voir la mise sur fiche ensemble. Pauvre. Bon, là encore, dans un week-end, on donne en quatre études en général les méthodes les unes après les autres, depuis le béaba jusqu'à la méthode la plus élaborée, parce qu'on a dans une église tous les stades, voyez. Mais on explique bien qu'il faut que chacun travaille au niveau où il est, quitte à commencer avec la méthode de base. Voilà, pour le départ. Secondement, se souvenir que toute méthode doit être adaptée aux dimensions de l'utilisateur. Nous l'avons déjà partiellement souligné tout à l'heure. Troisièmement, piège à éviter, viser le nombre de fiches au détriment d'une soigneuse élaboration de chaque fiche. Oh, c'est toujours le danger, surtout pour celui qui a un esprit compétitif, de compétition, n'est-ce pas, de temps en temps. C'est comme la lecture de la Bible en un an, de temps en temps le Seigneur met des pots de banane et on la lit en deux ans parce que quand on veut absolument, le Seigneur nous oblige à une certaine souplesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant abandonner un objectif de lecture sur une année, parce que je crois que c'est faisable par n'importe qui, et je pourrais vous donner des exemples. Je pense à certains exemples bien précis de personnes que j'ai vu venir à la conversion à Christ et qui étaient même diminuées dans leur santé, qui étaient au balbutiement dans le domaine de la lecture à cause d'un traumatisme crânien dans un accident. Et j'ai revu ce jeune de 25 ans, divorcé, déjà tellement diminué dans la vie. Un an plus tard, il en était à sa quatrième lecture de la Bible. Mais il faut voir la croissance spirituelle de ce jeune. Le fondement de sa croissance spirituelle, c'était ça. Un amoureux des Écritures. Mais quel plaisir! Et le serviteur, je vais chaque année dans cette communauté, et le serviteur de cette communauté m'a dit, j'ai vu l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'homme. Mais je n'ai pas encore vu dans mon ministère le Saint-Esprit travailler comme ça, sur la base de l'étude de la Bible. Moi-même, j'en ai été absolument émerveillé. Mais quel travail de la part de ce jeune! Et c'est un défi qui nous est lancé. Mais Dieu, de temps en temps, nous place dans des situations d'impasse lorsque nous avons tendance à avoir des penchants charnels dans ce domaine qui ne le glorifient pas.